Proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Ce soir, dans le Proton se rebiffe, l'emballement du monde. Énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, de Victor Court, paru aux éditions Éco-Société.
En 2020, la crise de la Covid-19 a brillamment montré que ceux qui ont le moins de diplômes, qui sont donc les moins reconnus pour leur travail et les moins bien payés, et qui contribuent le moins au changement climatique, sont ceux qui font réellement tourner l'économie. Avec le confinement, quasiment tous les cols blancs pouvaient encore pianoter sur leur ordinateur et organiser des réunions virtuelles depuis leur foyer, mais force est de constater qu'ils ne se sentaient pas aussi utiles que d'autres. Car il a bien fallu que certaines personnes soient privées de confinement. Il s'agissait du personnel soignant, bien sûr, et peut-être plus des infirmières et des aides-soignants que des médecins, mais aussi de tous les autres, derniers de cordée, premiers de corvée, qui n'ont pas de boulot à la con, mais plutôt, comme le dit David Graeber, des boulots de merde aux yeux du reste de la société, c'est-à-dire des emplois pénibles, mal payés et mal considérés. Les agriculteurs, les manœuvres dans les entrepôts, les livreurs en camion ou à vélo, les caissières, les éboueurs, les mécaniciens, les chauffeurs de bus, etc. Pour se rendre encore plus compte du fait que l'échelle de rémunération et de prestige des emplois est globalement inversée par rapport à leur utilité sociale, imaginons deux scénarios. Dans le premier, tous les premiers de cordée, qui occupent des boulots à la con en haut de la pyramide hiérarchique, manager, consultant, avocat fiscaliste, lobbyiste, assureur, trader, etc., disparaissent demain matin et il est impossible de les faire réapparaître ou de les remplacer. L'économie mondiale entre dans une récession profonde, mais ses fonctions vitales sont toujours là. La nourriture est produite et acheminée, l'éducation et les soins sont assurés, tout comme la construction des bâtiments. Malgré plusieurs problèmes à régler, la méga-machine parvient à se remettre sur pied. Sans tous les emplois à la con du monde d'avant. L'économie mondiale a bien changé, chaque pays ayant été contraint à se réorganiser autour de chaînes de valeur plus courtes, peut-être même strictement locales. De ce fait, la consommation de produits inutiles se trouve réduite, de même que la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Implicitement, nous venons là de mettre à jour un levier important de lutte contre le changement climatique. Remplacer tous les emplois superflus que nous avons créés depuis des décennies par des emplois écologiquement et socialement utiles.
Il faudra bien que ça change, la bêtise se mêle, la banquise qui se défait, les banques qui font la loi, les enfants en prison, la mafia sur le pont, la morgue des bouffons, les idiots qui pérorent, le peuple qui s'endort. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Ça change la vie sous les omiles, les rêves qui se résignent, les gamins qu'on abîme, les émissions débiles, les élus sans parole, les promesses qui s'envolent, le mépris des gagnants, le temps des colonies. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Ça change les murs et les frontières, les rafles et les charters, les droits de l'homme en papier, les sans-papiers sans droit, les triers léopards, les réseaux en Afrique, les petits arrangements et les gros paquets de fric. Il faudra bien que ça change, changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change, il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change, il y aura sûrement du sport. Il faudra bien que ça change, les renvois d'ascenseurs, les ascenseurs qui lâchent, les cités qu'on oublie, la mémoire qu'on détruit, le flicage des quartiers, les parties de flashball, la gestion par la peur, la pêche aux électeurs. il faudra bien que ça change. Changer la vie, changer le décor. Il faudra bien que ça change. Il y en a qui seront sûrement pas d'accord. Il faudra bien que ça change. Il y aura sûrement du sport.
Radio Libertaire, l'Arabia chantait « Il faudra bien que ça change ». Vous êtes donc dans le Proton sur Rebif, et voilà.
Et nous sommes à nouveau avec Victor Court, auteur de l'excellent livre appelé « L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines » qui a été publié aux éditions Éco-Société. Ce sont des éditions québécoises. Alors, le livre de Victor, eh bien, comme son sous-titre l'indique, c'est un livre qui a pour fil conducteur l'utilisation par les êtres humains de l'énergie. Et évidemment, c'est un vieux problème de toute l'histoire humaine, c'est qu'on aurait pu commencer dès le départ à utiliser l'énergie de manière solidaire, égalitaire, juste, en un mot, libertaire. Et Victor, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça?
Malheureusement, non, ça se saurait.
Ça se saurait? Oh, ben zut alors. Et donc, tu nous proposes une nouvelle lecture de l'histoire humaine, en même temps que ton livre est un recueil extraordinaire de tout un tas d'aperçus fort intéressants sur ce qui se passe justement dans cette histoire. Tu as divisé ton livre et en même temps l'histoire humaine en trois grandes parties. Mmh. Et quel est le thème fondamental qui organise cette division en tripartite, qui n'a rien à voir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous rassure tout de suite.
Clairement pas. Donc trois temps, effectivement, le temps des collecteurs, le premier, ensuite le temps des moissonneurs et le temps des extracteurs. Donc j'ai essayé de synthétiser à chaque fois quel était le système énergétique principal de l'humanité. Donc le premier temps des collecteurs, c'est le temps pendant lequel nos ancêtres étaient chasseurs-cueilleurs. Et donc, ils pouvaient capter l'énergie du soleil uniquement par les produits de la photosynthèse des plantes et puis par les animaux qui eux-mêmes avaient mangé des plantes avant. Et puis en brûlant du bois pour faire du feu. Donc ça, on en a beaucoup parlé la dernière fois déjà. On a eu le temps de passer au temps des moissonneurs, donc qui démarre il y a à peu près 10 000 ans avec les débuts de l'agriculture, ce qu'on a appelé la révolution néolithique. Qui est un concept qui se critique d'ailleurs, et on en avait parlé la dernière fois, et c'est surtout après la période de l'apparition des États agraires, et ensuite des empires, donc pendant plusieurs milliers d'années, et ensuite le temps des extracteurs avec le début de l'exploitation de l'énergie fossile, avec le charbon en premier lieu, le pétrole, le gaz ensuite, et puis aujourd'hui on est toujours dans le temps des extracteurs, alors de l'énergie fossile, mais maintenant aussi, enfin depuis un certain temps, de plein de métaux, tout un tas de matières dont on a besoin pour construire les infrastructures, et même les infrastructures dites bas carbone ou renouvelables, nous permettraient, on l'espère, de nous désengager des énergies fossiles. Donc on est toujours dans ce temps-là. Il y en a même qui rêvent d'aller sur les astéroïdes pour aller forer. Donc voilà, on sent qu'on est encore dans le temps des extracteurs pendant un moment.
En même temps que de plus en plus, on est en plus dans un temps bizarroïde, puisqu'on est dans le temps du virtuel, du métavers. On est dans le temps où de la masse monétaire mondiale, 90% sert uniquement à la finance et seulement 10% a un rapport quelconque avec justement le fait d'être des extracteurs et des transformateurs de ce qu'on a extrait. Donc ça, c'est encore un futur un petit peu délicat. Mais comme nous sommes après tout sur la radio de la Fédération anarchiste, et donc de gens qui sont relativement peu favorables aux États et donc aux empires. Et une des nombreuses choses qui m'ont beaucoup plu dans ton livre, c'est que tu expliques que les empires, par définition,
ça se casse la gueule.
Ouais.
Ah, quel bonheur. Hein, ça a l'air au début comme ça, absolument invincible, irrésistible, et voici Alexandre le Grand, et voici Napoléon. Et puis, effectivement, historiquement, on s'aperçoit de quelque chose, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, tous les empires s'effondrent. Et ce qui j'ai trouvé intéressant, c'est que tu nous donnes une série de raisons pour lesquelles ces empires s'effondrent. Alors, est-ce que tu pourrais revenir dans certaines, voire toutes ces raisons ? Dis-moi tout.
Oui. Alors, peut-être pour redonner un peu de contexte pour nos auditeurs, contexte chronologique, ce que j'aime bien. J'aime bien qu'on sache bien de quel moment on parle, hein, que ce soit le moins flou possible. Donc, l'agriculture, ça démarre il y a 10 000, 12 000 ans, ok. L'État, les premières formes d'État, de cité-État, donc avec les villes, avec l'écriture, ça apparaît plutôt il y a 5500 ans à peu près, ok. Donc il s'est passé quand même du temps entre le début de l'agriculture et l'apparition de l'État, ça on en a beaucoup parlé la dernière fois, hein, du fait que c'était pas automatique juste après la sédentarisation et l'agriculture d'avoir des états. Il a fallu la maîtrise de la métallurgie, enfin plein de choses dont on a parlé la dernière fois.
En particulier, il a aussi fallu la maîtrise des les céréales.
La céréaliculture à grande échelle. Ouais. Et les empires, c'est encore un peu plus tard, parce que les premières cités, c'était il y a 5500 ans. Les premiers empires, on va dire, c'est moins 1000, donc il y a à peu près 3000 ans. Et donc un empire, c'est quoi ? C'est un État qui a une volonté de projection, justement, territoriale, une volonté d'aller grappiller, phagocyter soit les États autour, soit même des territoires qui ne sont pas encore étatisés, qui sont plutôt peuplés par des chasseurs-cueilleurs ou par des agriculteurs, des pasteurs, par exemple. Et donc, il y a cette volonté de projection, donc c'est faire la paix par la guerre, hein. C'est toujours la volonté de répandre la paix, mais avant, il va falloir bien faire la guerre pour...
Avant la Pax Romana, les légions romaines.
Voilà, va falloir fédérer tout ça, mais bon, on fédère par la force, parce qu'en fait, les gens n'ont pas du tout envie de rentrer dans la fédération, enfin, ou dans l'Empire. Et il y a souvent aussi, c'est intéressant quand même, idéologiquement, il y a souvent une religion qui se veut universelle, en fait. Et il y a la volonté aussi d'aller dominer les autres peuples d'un point de vue spirituel, enfin idéologique.
Avec ceci quand même que les Romains, ils avaient trouvé une idée géniale, c'est qu'ils obligeaient les peuples qu'ils asservissaient à sacrifier à leur dieu. Mais à ce moment-là, les 10 peuples asservis pouvaient conserver leur propre religion.
Ouais, c'est ça.
Alors ça s'est juste mal passé dans le cas des Juifs, où là les Juifs ont dit « Bah non, désolé, on ne va pas sacrifier à vos dieux ». Puis après, l'hérésie juive, appelée le christianisme, ont fait pareil. Mais ça, c'est effectivement un peu une exception. Mais vas-y, continue.
Et effectivement, on voit bien que les empires, ils finissent toujours par se casser la gueule. Et en fait, ce ne serait pas une coïncidence. C'est parce qu'il y a des raisons intrinsèques.
Et alors, quelles sont ces raisons intrinsèques ?
Raisons intrinsèques, alors on reviendra après sur la question des rendements marginaux décroissants. Mais c'est qu'en fait, l'empereur, lui, il a besoin plutôt d'avoir des... Son territoire est tellement grand qu'il est obligé de mettre des élites locales, des potentats locaux pour gérer localement, administrer le territoire, en fait. Donc, quelque part, pour le fonctionnement optimal de son empire, il a besoin que ses élites soient plutôt fortes localement, parce qu'il faut lever l'impôt, parce que s'il promulgue une nouvelle loi, il faut qu'elle soit vite appliquée. Parce qu'il faut maintenir l'ordre, et donc on a besoin aussi que l'information circule bien. Donc il a plutôt besoin d'un maillage, en fait, solide. Mais qu'est-ce qui se passe quand il rend ses élites locales puissante ?
Je crois deviner.
Eh ben, elles peuvent...
Je crois deviner le petit potentat local qui devient le gros potentat local. Voilà. Je voudrais bien être calife.
Voilà, exactement. Et voir en s'alliant avec l'autre potentat local qui est un peu... Enfin, celui d'à côté qui est peut-être un peu moins fort, mais à deux, on va y arriver. Enfin, voilà. Donc forcément, au bout d'un moment, ça... Il a aussi, du coup, l'empereur, besoin d'élites... précaires, enfin d'élite locale précaire. À la fois, il les veut fortes, mais aussi précaires, parce que il faut qu'il les joue les uns contre les unes contre les autres. Il a aussi besoin d'une dépense ostentatoire pour toujours montrer que c'est lui, que la force vient de la capitale. Hein. Donc, il faut toujours montrer que c'est l'empereur, l'unique, celui qui a le plus de liens justement avec les dieux, pourquoi pas. Et d'ailleurs, les potentats locaux sont eux aussi dans cette course un peu ostentatoire. Donc, il y a des dépenses qui grimpent en flèche au cours du temps. et qui mécaniquement deviennent toujours plus importantes que les rentrées qui, elles, viennent justement du fait d'aller asservir de nouveaux peuples, de nouveaux territoires. Mais en fait, dans la phase d'essor, on ne se rend pas compte de ces contradictions internes. Et en fait, le climax de l'Empire est atteint et il ne dure pas très longtemps parce qu'une fois qu'on arrive au territoire maximal à gérer d'un point de vue militaire, et que pourquoi pas, ça va être aussi des contraintes géographiques qui vont circonscrire la taille maximale de l'Empire. En fait, au bout d'un moment, ben là, ces contradictions, elles deviennent complètement visibles et elles vont grignoter de l'intérieur l'Empire, et il va finir par s'effondrer inéluctablement en quelques dizaines d'années ou quelques siècles, en fait. Voilà. Donc il n'y aura jamais, par définition, en vérité, il n'y aura jamais d'Empire millénaire.
Alors je voudrais rappeler là-dessus qu'il y a un très très bon livre, un grand classique dont j'ai souvent recommandé la lecture, La théorie de la classe de loisirs de Thorsten Veblen. Qui est Thorsten Veblen? C'est un sociologue norvégien-américain de la fin du 19e siècle et qui sait justement, qui a réfléchi à ce problème auquel tu faisais allusion, de l'ostentation. L'ostentation à la Louis XIV, l'ostentation à la Alexandre le Grand, l'ostentation comme l'empereur chinois, ça n'est pas quelque chose de superflu, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et ça se passe sur quel principe? C'est très simple. Veblen parle de consommation ostentatoire, c'est-à-dire qu'on va gaspiller des ressources dont on voit bien qu'elles auraient pu servir à quelque chose d'utile, mais exprès, on les gaspille de manière inutile pour bien faire comprendre à tous les rivaux potentiels qu'on a un niveau de ressources très supérieur à ce que... Alors nous, les Français, on connaît ça extrêmement bien, puisqu'on connaît Versailles. Et que Versailles a été un trou dans le budget français absolument colossal. Un historien américain a dit de Versailles que Versailles avait coûté à la France que le Vietnam avait coûté à l'Amérique.
Ouais.
Et ceci, c'est effectivement quelque chose qui se passe avec tous les empires. Et comme tu le dis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les subordonnés directs de l'empereur veulent aussi à ce moment-là se lancer dans une consommation ostentatoire. Mmh. Et on arrive à ce qui s'est passé effectivement en France en 1789, où les nobles, la grande bourgeoisie, la monarchie étaient tous engagés dans cette course. Tout ça, bien entendu, aux dépens des gens qui avaient faim. Et bien entendu, au bout d'un moment, eh bien, ça pète, comme on voudrait que ça pète maintenant.
Rich man's war, industrial streets, class lines, money talks, turning language to paper pieces. Rich man's war, free man society, raging violent insecurity, nuclear man, nuclear woman, unclear how to act. Rich man's war, Pershing's cruising Europe, America, Russia, governmental nuclear views, industrial allies cutting the world as though they cannot see blood flowing. Rich man's war, Central America bleeding, wounds same as Palestine and Harlem, Three Mile Island in El Salvador, Heinrich in Belfast. Rich man's war, the poor starving for food, starving for land, starving for peace, starving for real. Rich man's war, attacking human, attacking being, attacking earth, attacking tomorrow. Rich man's war, thinking of always war, thinking of always war. With machines for ancestors, new unborn generations, chemical umbilical cords are only wiring. In your electrical progress, human lives burnt offerings to the god greed. With lies for ancestors, there is no truth in some futures. Rulers of minds feeding next generation souls to the control machine. Sacrifice ritual for the profit technology. With isolation for ancestors, there's only the present, bought by the credit material uses, forging chains, binding you to destruction,
the compliments of your deities, the industrial priest. Face who we really are. Some point we have no choice. Distant star, distant light. In real world we are human being. In shadow of real world we are being human. Neon mask for neon flash. Distant thunder, distant cloud. Passion's rain. Drenched in possession, what we take is hard to do. What we do is hard to take. Someone's are crazy, or maybe we take turns. Dreaming about some kind of life, we say it could have been different. But it wasn't, because we weren't. No matter what, it turns out the same. A lot of things we said weren't true. Industrial stories in an electric instant. Eon mask. Neon flash. Neon flash. Thing is, nihilistic desires. Civilized, gone insane. Didn't imagine it turning like this. Some things start good and go bad. Some things get bad and stay bad. Are we caught in between living a lie or not living at all? Eliminated choices, lost in dreams we let go. Memories we never got to have, something else to think about. Waking up in industrial society, surrounded by angry days. Going through motions of not being. Wanting the best but not expecting it. Surviving paid for in dreams. Feeling like a world alone. Serving God with the devil to pay. Feeling like something in no place. What goes on in hell anyway? Thing is, it has to do with heart. We have to understand what hearts are for before we can get back to heaven or paradise. Or the power in our mind.
Richman War de John Trudel, vous êtes sur Radio Libertaire, le proton se rebiffe.
Et nous sommes toujours à parler de l'excellent livre de Victor Court, L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, paru chez Éco-Société. Alors nous étions en train de parler du fait que les empires, c'est bien joli, non en fait c'est pas joli du tout, les empires, c'est bien immonde, mais il y a une consolation avec les empires, c'est qu'un jour ou un autre, ils se cassent la figure. Alors nous venons de parler entre autres choses de l'œuvre de Thorsten Veblen, La théorie de la classe de loisirs, mais il y a un livre encore plus simple, c'est pas très compliqué La théorie de la classe de loisirs, mais rien livre, mais vraiment c'est très simple à lire, c'est très drôle. Et surtout, c'est très vrai. Ça s'appelle Le principe de Peter, et ça a été écrit par Monsieur Peter et par Monsieur Hull, H-U-2-L. Et Le principe de Peter, peux-tu nous le lire, là, Victor ?
Je le connaissais pas, mais donc...
On en découvre tous les
jours. Super content de découvrir ça. Selon ce principe, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence.
Aha.
Avec pour corollaire que dans le temps... Tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité.
C'est pas mignon, ça. Alors, réfléchissons juste. Ça semble juste une plaisanterie, une méchanceté. C'est pas du tout ça. Vous êtes un empereur, donc vous voulez être en haut d'une hiérarchie. On est bien d'accord, vous pouvez pas être un empereur anarchiste. Vous pouvez pas être un empereur libertaire, c'est pas possible. Donc vous voulez une hiérarchie. Au bout d'un moment, vous vous dites, mais quand même, ma hiérarchie en particulier, puisque j'ai à gérer un empire immense, faudrait quand même mieux qu'elle soit efficace. Et donc, au bout d'un moment, vous vous dites que votre hiérarchie, ça serait bien qu'elle soit plus ou moins
méritocratique. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le pouvoir est attribué au mérite, donc à la compétence. Bon, donc à supposer que vous ayez les bons critères pour juger qui est compétent. Déjà, c'est déjà beaucoup.
Grosse hypothèse.
C'est déjà beaucoup demandé ça. Mais à supposer que vous ayez les critères pour juger qui est compétent. Qu'est-ce qui se passe ? Vous recrutez, par exemple, Lulu. Lulu, voilà, donc Lulu que nous avons dans le studio. Lulu est très compétent pour des tas de choses et par exemple, il va être très compétent pour gérer les attaques de CRS sur les manifestants qui sont pas contents du 49-3. Et puis, Lulu va être extrêmement compétent pour ça. Alors, on va dire, mais puisque Lulu est très compétent pour gérer les attaques sur les manifs, on va en faire un ministre de l'Intérieur. Oui, mais ministre de l'Intérieur, c'est encore un petit peu plus compliqué. Mais supposons que Lulu fasse un ministre de l'Intérieur génial. Ben peut-être que Lulu va devenir président de la République. Oui, mais président de la République.
Dis donc, tu l'habilles pour l'hiver, là. Hein,
voilà, un vrai costard. Ça devient très compliqué. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au bout d'un moment, tout le monde atteint, si la hiérarchie est réellement méritocratique, atteint son niveau de compétence maximale. Donc, il fait son job merveilleusement bien. Donc, on le promeut un cran au-dessus. Oui, mais...
Sur le cran au-dessus, il n'y arrive plus.
Il est plus bon, puisqu'il était à son niveau de compétence maximale.
Juste avant.
Donc, par définition, il va être promu un cran au-dessus.
Un cran de trop.
Et là, évidemment, il va être incompétent. Mais comme il a accumulé du prestige, du pouvoir, de l'amitié, etc., et que le chef en haut ne veut pas trop se déjuger non plus, eh bien, les hiérarchies, et en particulier les hiérarchies méritocratiques, donc censément les plus efficaces, s'auto-polluent et s'auto-désintègre un jour ou un autre. Et donc, ce principe de Peter, eh bien, c'est l'une des raisons absolument fondamentales de la chute des empires. Et on le sait pour...
Je pense que c'est une raison de la médiocrité managériale aussi, même dans les sociétés actuelles, tu vois. C'est marrant parce que je connaissais pas le principe, mais bon, plus tard dans le bouquin, quand je parle plutôt des années récentes, j'évoque aussi ce problème-là. Qui est que même en méritocratie, en fait, en méritocratie, en fait, on ne fait pas monter les compétents, ceux qui sont le plus productifs. On fait monter en hiérarchie surtout ceux qui savent rendre des services, qui sont dociles, qui sont dans le statu quo, etc.
Qui sont dociles, oui. Moi, je dirais qu'on fait surtout monter, à partir du moment où on va vraiment très très haut, on fait monter les sociopathes.
Peut-être aussi,
qui ont écrasé leurs concurrents, qui savent effectivement flatter et sembler dociles. Aujourd'hui, on en a par exemple un exemple évident avec Poutine et Prigogine.
Aller vers le top de ce qu'est la hiérarchie, je pense si on regarde dans n'importe quelle entreprise ou malheureusement aussi parfois dans une petite association de 15 personnes, on voit déjà ce genre de comportement, tu vois, c'est pas toujours les mieux placés, les plus compétents, justement, qui montent.
Hein. Alors, c'est les lèches-culs.
En se souvenant que les lèches-culs sont en même temps des hyènes.
C'est une forme de compétence, ceci.
Les lèches-culs, ils ont une très très grande langue, mais ils ont aussi des canines extrêmement longues, et que tout ceci fait que les hiérarchies, par définition, au bout d'un moment, explosent ou commencent à se désintégrer ou à pourrir de l'intérieur. On le voit aujourd'hui en France, on le voit aujourd'hui dans tant de pays du monde où le niveau intellectuel de la classe politique, qui était déjà pas bien élevé, est en train de s'effondrer de manière absolument spectaculaire. Donc on le voit un peu partout. Alors là-dessus, je voudrais également que tu nous parles de quelque chose qui est souvent mal compris, entre autres parce que le mot pour décrire le principe n'est pas d'une clarté folle, c'est le principe des rendements décroissants. Qu'est-ce que c'est que le principe des rendements décroissants et qu'est-ce qu'il a à voir avec le fonctionnement des sociétés ?
Ouais. On s'est éloigné un peu, donc on va revenir.
On y revient.
On va revenir à l'histoire des empires et surtout de l'énergie. Il faut que j'essaie de reparler un peu d'énergie, quand même, parce que c'est le fil conducteur du bouquin. La question des rendements plutôt marginaux, rendements marginaux décroissants ou du rendement marginal décroissant. C'est le mot marginal qui fait mal.
Il est très désagréable, Victor. Alors, Lulu et Christiane, il faut que je vous avoue quelque chose. Victor, il est économiste. Bon, personne n'est parfait, hein, il est économiste. Alors, il utilise un mot comme marginal. J'ai jamais pigé.
Je vais essayer.
Vas-y, explique.
Peut-être le plus clair possible. Alors, c'est quelque chose qu'on comprend bien. C'est le fait qu'au bout d'un moment, quand on a une activité quelconque, qui nécessite d'abord d'investir de l'énergie ou de l'argent pour en retirer un bénéfice, au cours du temps, le coût d'investissement augmente plus vite que le bénéfice. Donc, on peut avoir des bénéfices qui sont toujours positifs, mais ils sont positifs, mais de...
Est-ce que je peux le dire autrement ? Est-ce que je peux dire que ça coûte de plus en plus cher de gagner de moins en moins d'argent ?
Ouais, c'est un peu ça. Donc, on le voit, avant de l'appliquer au cas général énergétique, enfin, du soubassement énergétique des empires, on va le prendre l'exemple sur... l'extraction d'énergie, en fait, tout court, et l'extraction du pétrole. C'est clair que les pétroliers, ils sont d'abord allés chercher le pétrole là où c'était le plus facile à extraire. Donc, dans les champs où, en gros, on forait un petit peu et ça remontait direct. Okay, donc, investissement peu coûteux et bénéfice énorme. Et au fur et à mesure où ces gisements de très bonne qualité s'amenuisent, on va vers des gisements de moins bonne qualité.
Mer du Nord.
Voilà, mer du Nord, on va faire le pétrole de schiste maintenant, le sable bitumineux au Canada. Donc là, il faut beaucoup plus d'énergie pour beaucoup plus d'énergie investie et d'argent pour un bénéfice qui, lui, est certes positif, mais il se réduit au cours du temps. Et c'est ça le rendement marginal. Marginal, ça veut dire pour la dernière unité investie.
Et alors, c'est ce qui se passe également du point de vue général pour tous les empires.
C'est aussi ce qui se passe pour tous les empires. Je termine avec un dernier exemple pour bien comprendre, c'est le système éducatif, par exemple. Mm-hmm. On comprend bien que l'alphabétisation de masse, donc tout le monde va à l'école primaire, ça coûte pas grand-chose rapporté aux bénéfices énormes. C'est-à-dire avoir une population alphabétisée qui sait lire et écrire, c'est énorme en termes de gains de productivité, ce qu'on va pouvoir faire à ces gens d'un point de vue créativité. Mais quand on décide que tout le monde doit faire une licence, voire un master, donc aller jusqu'à Bac plus 5, là, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent pour un bénéfice qui est peut-être positif, mais bon, marginalement, il est moins important que celui du stade précédent. Et alors, avec le doctorat, c'est encore pire. Et on voit bien qu'il y a eu une inflation, au cours du temps, il y a eu une inflation des diplômes. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait sur le marché du travail avec le bac, ensuite, il a fallu aller jusqu'à
avec
Bac plus 3.
Avec le certificat d'études.
Ouais, certificat d'études. Et maintenant, même avec deux masters, on peut galérer et puis on a un emploi précaire. Voilà.
Mais est-ce que ça n'est pas justement quand même... Toi, tu disais, le bénéfice, on ne le trouve pas de la même manière, mais si on se place du point de vue humain, si c'est un bénéfice pour les personnes qui ont fait. Ouais. Je veux dire, c'est quand même plus sympa d'avoir, je sais pas, un master, par exemple, même si on n'a pas de boulot, que d'avoir rien du tout.
Non, là, ok, mais là, je parlais du point de vue... purement utilitariste, économique, productif. Si
d'accord,
tu veux.
Mais ça, c'est un point de vue. Mais l'autre ouais. point de vue aussi, c'est qu'à partir du moment où tu dis, bon, ben, c'est marginal, et effectivement, on va dépenser plus. Mais ça, c'est parce qu'au départ, on s'est empressé et on a essayé de faire des gains qui étaient tous, si tu veux, à courte durée. C'est-à-dire, personne n'a vu qu'est-ce qui allait se passer, ce qui allait se passer quand justement ces gisements allaient devenir moindres. Tu vois, donc c'est assez complexe, en fait. Donc
sur l'exemple de l'éducation, du coup, tu as raison, il n'est pas bon à cause de cette dimension qui est que c'est d'un point de vue individuel, c'est très bien chacun d'apprendre plein de choses. On a envie d'apprendre des choses toute notre vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes.
C'est le cas de beaucoup de monde parmi les anarchistes, et heureusement, pas seulement parmi les anarchistes.
Non, mais prenons... Alors, l'exemple de la santé fonctionne très bien.
Mm-hmm, vas-y.
Hein, l'espérance de vie, elle stagnait pendant très longtemps. On a une espérance de vie de 40 ans. Et puis, il suffit de mettre le tout à l'égout, les mesures d'hygiène de base, donc qui ne coûtent pas grand-chose. Et puis, boum! On diminue drastiquement les infections et donc l'espérance de vie passe à 60 ans. Okay, donc on a pris 20 ans d'espérance de vie avec un investissement peu élevé. Passer au stade d'après, bah là il faut la médecine moderne, il faut les hôpitaux, il faut de la prévention, il faut du dépistage précoce, etc. Et donc là, pour gagner encore 20 ans d'espérance de vie, passer de 60 à 80, il faut une alimentation de bonne qualité, etc. C'est plus compliqué. Et on voit bien que là, pour passer de 80 à 100 et de 100 à 120, là, il va nous falloir les nanotechnologies, voire des caissons, je sais pas quoi, régénérants.
Des trucs génétiques bizarres, enfin,
voilà.
Dangereux, etc.
Donc, on voit bien que là, l'investissement, il devient... En fait, le coût en investissement croît de façon exponentielle, alors que le bénéfice, lui, non. Et donc, marginalement, le rendement est de moins en moins bon. Okay.
Alors, je voudrais maintenant, à nouveau, l'un des plaisirs de ton livre, c'est qu'il y a toutes ces pépites, ces idées qu'on découvre par-ci, par-là. Tu as beaucoup lu et tu as surtout bien lu. Et je voudrais juste lire un paragraphe qui m'a réjoui.
Avant l'apparition de la machine à vapeur, le muscle humain était le seul convertisseur énergique disponible à tout moment et en toutes circonstances pour propulser un bateau. Par l'association de dizaines ou de centaines de rameurs, souvent enrôlés de force, le convertisseur musculaire était suffisant pour parcourir de courtes distances sur les mers. Mais traverser un océan en tablant sur cette stratégie aurait été impossible. Un équipage complet n'aurait jamais eu la place pour embarquer assez de nourriture pour un si long voyage. C'est ce qui explique que les premiers Vikings qui sont arrivés en Amérique du Nord l'ont fait très lentement, par l'enchaînement de brefs voyages le long des côtes, et très vraisemblablement, sans retour. Alors là, moi j'ajoute, c'est pas dans le bouquin, c'est des sauts de puce. Les Vikings sont bien arrivés en Amérique du Nord, mais ils sont arrivés par petits bouts. Donc en fait, ils se sont jamais rendus compte qu'ils débarquaient dans un nouveau continent. Pour eux, c'était une suite d'îles. Mmh. Oh ben, on était en Islande, oh ben, maintenant on est au Groenland, puis maintenant on est dans cette petite île-là, de cette petite île-là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas vu la nécessité particulière d'en parler ailleurs. Et puis, ton texte continue. Mais heureusement, les rayons du soleil qui frappent inégalement la surface de la Terre génèrent des courants d'air dans l'atmosphère. Les humains ont appris à capter cette énergie cinétique dans les voiles de leurs bateaux il y a plusieurs milliers d'années déjà. Alors là, c'est moi qui avoue mon ignorance. Je savais bien qu'il y avait, allez, sur l'hémisphère nord, les vents tournent dans telle direction, et puis dans l'hémisphère sud, ils tournent dans la direction opposée. Et je n'avais jamais fait le lien avec le fait tout simple qu'effectivement, comme les rayons du soleil ne tombent pas avec le même angle sur la surface terrestre, les températures sont donc différentes, et donc on a bien des masses d'air froid d'un côté, des masses d'air chaud de l'autre, et on sait que tout ceci se balade. Et nous, les êtres humains décidés à exploiter les énergies, fort heureusement, il est quand même arrivé un jour où nous nous sommes rendus compte que nous pouvions exploiter cette énergie-là, et nous comptons bien continuer à l'exploiter, parce qu'elle, au moins, elle est propre, plus ou moins.
Plus ou moins.
Oui, plus ou moins, parce plus que, moins, excuse-moi.
On découvre qu'elle aussi, elle a des problèmes.
Enfin, on les panneaux solaires, c'est pas non plus le...
Voilà, on découvre un truc simple, c'est que, je pense que tu en conviendras...
Greenwashing, hein, n'oublie
voilà,
pas.
Voilà, exactement, il n'y a pas d'énergie totalement propre.
Ça ne veut rien dire, l'énergie propre.
Voilà, nous les êtres humains, on impacte notre environnement, donc le problème, c'est pas de se dire... qu'on va trouver un jour une énergie qui n'aura aucune conséquence négative sur l'environnement, c'est de se dire, un, il faut des énergies qui aient le moins d'impact possible, et deux, décroissance, il faut qu'on ait moins besoin de l'énergie, puisque à chaque fois que nous, on prélève de l'énergie, d'une manière ou d'une autre, on endommage notre environnement. Alors, également, ces histoires de prélèvement, il y a un chiffre qui m'a laissé tout à fait rêveur. Et peut-être, Victor, tu voudrais lire ton propre texte.
Tu le fais mieux que moi, non ? Non, mais juste pour... Là, t'es allé bien t'as fait un bond dans le bouquin pour qu'on avance. On parlait des empires, etc. Donc là, t'arrives sur passage que j'ai appelé de l'interconnexion des mondes, c'est-à-dire la découverte, entre guillemets, du nouveau monde des Amériques par l'ancien monde, les Européens. Et qui, effectivement, s'est fait par la traversée de Christophe Colomb, qui a permis d'aller, moi, puisque j'ai mon œil, j'ai mes deux angles, l'énergie et la domination, qui a permis d'aller exterminer des peuples, les peuples autochtones des Amériques, d'aller exploiter leurs ressources, et notamment d'aller réaliser un échange de convertisseurs énergétiques. Pourquoi ? Parce que les systèmes agraires dans les Amériques et puis en Eurasie avaient évolué pendant des milliers d'années différemment. Chacun avait ses animaux, chacun avait ses plantes. Et tout d'un coup, à partir de 1500, on a ce qu'on appelle cet échange colombien. Hein, c'est le terme qui a été donné par l'historien Alfred Crosby, qui est qu'on a ramené tout un tas de plantes des États-Unis en Europe, donc la patate.
Surtout la patate.
Surtout la patate, super importante, mais le maïs, la tomate, enfin voilà, plein de... qui sont des convertisseurs énergétiques et qui sont venus donner de la diversité et donc un coup de boost au système agricole européen. Hein, donc, ce qui peut expliquer une partie de la prospérité, clairement, de l'Europe, notamment aussi par la traite négrière, par le fait qu'on a exploité là-bas des territoires énormes pour le bois, pour le coton, etc. Donc c'est, ça, c'est tout le milieu du... Ça, c'est plutôt le chapitre 6, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et effectivement, je parle aussi... tu voulais y venir ?
Je voulais y venir. Alors, d'une chose qui est... qui a, en un sens, rien à voir avec l'énergie, mais qui a à voir avec l'énergie symbolique. Nous, les êtres humains, nous vivons dans un monde de symboles, et nous avons, parmi les symboles que nous avons créés, il y en a des très bien, hein, le langage, c'est très très bien, puis il y en a des très désagréables, la religion, puis il y a le pire, l'argent.
La thune.
La thune, ça, souvenons-nous, l'argent, c'est un symbole, et c'est un symbole extrêmement dangereux. Et là-dessus, tu rappelles quelque chose, mais tu le rappelles en donnant des chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors attention, ça commence. Le plus gros de ces gisements d'argent est découvert à Potosi, en Bolivie, en 1545. Au cours des trois siècles suivants, des millions d'Autochtones travaillent dans les mines et les fonderies de cette ville, soit parce qu'ils y sont obligés, soit parce qu'ils ont besoin des maigres salaires proposés pour tenter de survivre dans ce lieu de perdition. L'exploitation minière est dès ses débuts dangereuse et éreintante, écroulement de galeries, horaires épuisants, maladies, etc. Mais elle le devient encore plus. Après l'introduction d'un nouveau procédé de raffinage du minerai utilisant du...
Mercure.
Un poison pour toute forme de vie. Environ 7 travailleurs sur 10 meurent à cause des conditions de travail littéralement infernales des mines de Potosi. Et on estime qu'au total, environ 8 millions d'Autochtones y auront péri. Alors là, c'est moi qui commente. Donc on va avoir 8 millions de morts. Pourquoi ? Pourquoi ? Dans quel but ? Je reprends le texte de Victor. En 1660, soit environ un siècle après le début de l'exploitation des mines du Nouveau Monde par les Espagnols, environ 15 000 tonnes d'argent et plus de 16 tonnes d'or ont déjà été extraites, raffinées et exportées vers l'Europe. En 1800, la quantité totale d'argent, le minerai, ayant transité depuis le Nouveau Monde vers l'Ancien, serait d'un peu moins de 100 000 tonnes. Et là, à nouveau, on voit à quel point quand même la chose a été criminelle. 8 millions de morts, on ne compte pas les vies gâchées, le fait de la torture que c'était de travailler dans ces mines. 8 millions de morts pour avoir... Quoi ?
100 000 tonnes d'argent.
Allez, mettons peut-être au total 300 ou 400 tonnes d'or. Juste des petits jetons. Et dont, souvenons-nous, la majeure partie des populations européennes ne les voyait jamais. Souvenons-nous que pour la plupart des paysans européens en 1500, en 1600, l'économie n'est pas une économie monétaire. Tout ça, c'est tout simplement pour enrichir les élites européennes. Comme maintenant, souvenons-nous qu'à nouveau, je l'ai souvent dit dans ces émissions, 90% de la masse monétaire part dans la finance et non pas dans les poches des gens. Mais le bon Victor, il fait encore pire. si, je vous le dis. Alors, on vient de voir que donc 8 millions d'Américains, Christiane...
États-Unis.
Non, 8 millions... d'Américains.
Amérindiens, c'est pas des États-Unis.
Mais
attention, tu donnes le chiffre que de ceux qui sont morts dans cette mine de Potosi en Bolivie.
Ah oui.
Mais on n'arrive même pas à estimer. Et puis même là, les chiffres sur les quantités d'argent et d'or extraits, il y a vraiment encore plein de discussions chez les historiens. Enfin voilà, moi j'ai un peu pris l'espèce d'estimation moyenne. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du carnage, du génocide qu'a été l'arrivée dans les Amériques des Européens. C'est des dizaines et des dizaines de millions de morts. Je crois que on dit que c'est 40 à, entre 40 et 80 millions de morts. On ne sait pas vraiment estimer la quantité de personnes qui étaient là avant qu'on arrive en 1500. C'est monstrueux, vraiment.
Alors, un autre chiffre qui semble un petit peu moins brutal, mais en fait, dès qu'on y réfléchit, c'est pareil, c'est... On se rend compte d'une chose, comme on sait, c'est bien gentil, donc les autochtones amérindiens meurent, mais les Blancs, eux, ils se disent, mais attendez, il y a quelque chose de très bien à faire pousser dans ces lieux, c'est la canne à sucre.
La canne à sucre.
Le sucre, eh bien, comme chacun sait, c'est un produit addictif, donc c'est très très bien pour qui fabrique et vend du sucre. Bon, voilà. Les Amérindiens, ils sont
Il n'y a plus de main-d'œuvre.
Il n'y en a plus, il n'y a plus de main-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
comme on se rend compte que le paysan européen sous les tropiques, il ne va peut-être pas durer très très longtemps, eh bien, on va importer des gens qui vivent déjà sous les tropiques. Donc, c'est là qu'on invente la traite négrière. Et là-dessus aussi, on oublie que la traite négrière a profité considérablement aux pays européens. Mine de rien, la ville de Bordeaux, la ville de Nantes par exemple.
La Rochelle, peut-être.
La Rochelle, on fait des fortunes.
En Angleterre aussi,
voilà.
Bien sûr.
Et surtout, surtout, voici le chiffre que tu donnes et qui m'a laissé un petit peu sur les fesses. Il en est allé tout autrement à partir de 1800. Entre autres exemples connus, les expérimentations de Matthew Boulton et James Watt, c'est-à-dire les inventeurs de la machine à vapeur, semblent bien avoir été financés par les acteurs du commerce négrier. Il est également avéré que des planteurs de canne à sucre du Nouveau Monde ont investi dans la métallurgie naissante de l'Angleterre. La métallurgie naissante de l'Angleterre, c'est la naissance de l'industrie capitaliste moderne. On sait aussi qu'à peu près toutes les industries de Manchester et de Liverpool ont bénéficié de capitaux financiers venant d'armateurs locaux. Et désolé, les armateurs locaux de Manchester et Liverpool, tous, étaient impliqués dans la traite des esclaves. D'après l'historienne Barbara Solow, sans même parler des profits issus de la vente des marchandises transportées, ceux de la vente d'esclaves auraient à eux seuls constitué près de 40% de l'investissement industriel et commercial britannique en 1770. C'est-à-dire que cette fameuse révolution industrielle, ce bond de la productivité capitaliste industrielle, eh bien, désolé, il vient de quoi ? Il vient des souffrances abominables et de la mort de millions d'Africains, d'abord de millions d'Autochtones amérindiens et ensuite de millions d'esclaves africains dans tous les pays colonisés par la Grande-Bretagne, par les Pays-Bas, par la France et par, bien entendu, par l'Espagne le Portugal.
C'est pas le seul facteur, hein, parce que c'est très compliqué là. Déterminer quels sont les facteurs qui expliquent le décollage précoce de l'Angleterre. Pourquoi est-ce que l'Angleterre s'industrialise avant les autres? Pourquoi à cette date? Pourquoi pas la Chine, 1000 ans avant, qui était en avance techniquement, comme on l'avait dit la dernière fois? Mais ça, ça a été un facteur indéniable. Alors ça a fait, chez les historiens, c'est toujours des débats pendant des dizaines d'années, parce que justement, ce genre d'estimation, donc les estimations de... que tu as donné ont été parfois critiquées, mais grosso modo, moi j'ai quand même eu l'impression qu'elles tenaient la route, donc je les ai données. Il y a bien sûr pas que ça, mais c'est un facteur énorme, hein. Ça c'est clair.
Alors, dans le genre, on prend les pauvres et puis on les fait travailler pour que les riches en profitent, tu parles de quelque chose qui, pendant longtemps, a été vu comme un bénéfice absolument complet, une chose absolument merveilleuse, qui est l'école. L'école universelle, laïque, gratuite, obligatoire. Et peux-tu nous dire ce que tu en as écrit?
Oui, alors, c'est... Je pense qu'on est... Il y a quand même pas mal de personnes qui se rendent compte du caractère un peu emprisonnant de l'école.
Non, quelle surprise!
Et c'est évident, enfin, il y a clairement... une volonté de mise au pas des personnes, notamment des enfants, pour les habituer à ce que va être le travail en usine et maintenant le travail en bureau, notamment le respecter les règles, respecter les horaires, respecter les cadences, l'autorité, etc. Et donc l'école, bien sûr qu'on peut y voir quelque chose de bon quand ça vise à l'émancipation de l'individu, à lui apporter l'esprit critique, l'esprit d'analyse, les connaissances. Hein. On aimerait que l'école, ça ne soit que ça. Malheureusement, c'est a priori pas que ça, et c'est pour ça que les systèmes éducatifs ont été soutenus par les classes dirigeantes, bien sûr, mais par les classes aussi capitalistes, par les grands financiers, qui avait tout à fait... il fallait quand même mettre au pas toute une population qui était avant plutôt du monde rural, plutôt des gens qui travaillaient à certaines périodes de l'année de façon très intense, par exemple au moment des moissons, mais qui après alternaient avec des périodes où il y avait beaucoup moins de travail, alors que là, on avait besoin que les gens viennent pointer tous les matins à telle heure, repartent à telle heure, avec des pauses très restreintes, etc. Et donc, pour mettre au pas tout ça, l'école, ça a été un moule formidable.
Tout le monde à la Bordeaux! manque. Le vent l'encre noir, les femmes et les enfants debout.
Larguez les amarres.
Marins des mers du Nord, j'timi Moussaillon. Une nouvelle page doit s'écrire, on met les voiles pour de bon. C'est la lutte finale, qu'on pour nous est demain. L'international des pirates sera le genre humain. Gardons le cap coûte que coûte, même en pleine tempête. Bandit, contre l'ordre établi, relevons la tête.
Encore un refrain pour afficher nos couleurs. Encore une douille pour défier nos censeurs. Encore un pavé dans la tronche de l'oppresseur. Encore une grève pour défendre nos valeurs. Qui a cru qu'on était tous anesthésiés? Qui pensait qu'on avait tous démissionné? Que Babylone nous avait ensorcelé? Qu'il suffisait désormais de nous dire qu'on pensait. Les penseurs de leur mère va leur dire que le MAP est en guerre, va leur dire qu'on a capté leur petit manège, qu'on a assez de plastique pour faire sauter leurs privilèges. On peut se les faire si on reste bien groupir, bien soudés, on fera chuter leur empire. Ils ont les lois, les matraques et les tasers, on a la foi et de la rage dans les viscères.
Écumons les scènes, voguons de ville en ville, constituons notre armée de bras cassés, d'affreux, d'immondes. Sous l'œil de la lune rousse de tout part, les renforts arrivent. Repartons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sabres. Captain Radio Crochet monte le son, donne-nous du cœur à l'ouvrage. Pompier bon oeil, on part à l'abordage.
Cette philosophie qui proclame une race supérieure et une autre inférieure. En toute impunité,
en toute légalité,
man, ce sera la guerre.
Tant que la couleur de notre peau ne sera pas aussi banale que la couleur de nos yeux, tant que sur ce monde régneront l'injustice et le faux, accompagnés de nos archers, nous serons prêts à faire feu. Et même si la route est longue, on tracera vaille que vaille, emmenant dans notre sillon des milliers de pirates samouraïs. On ne reculera devant aucune mine, aucun labeur. Les barrières sont faites pour ceux qui en ont peur.
Intifada, révolte, insoumission, appel au soulèvement et à la rébellion. Tant qu'il y aura de la flicaille assassine, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qu'on opprime. Avis à la populace, on recrute très très large. On embauche en masse pour une mission piratage. Fait tourner la foule. Faut du monde dans l'équipage. Un seul mot d'ordre, tout le monde à l'abordage.
C'était à l'abordage par MAP, le MAP. Vous êtes sur Radio Libertaire et vous écoutez Le Proton se rebiff.
Et Le Proton se rebiff parle de l'excellent livre de Victor Court, L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, publié aux éditions Éco-Société. Et parmi les nombreuses pépites, oui c'est vrai, on parlait d'extraction. Moi, j'aime bien être extracteur des pépites de ton bouquin.
Ça me va.
Magnifique. Donc parmi les nombreuses pépites que j'ai trouvées dans ce livre, eh bien il y a un texte d'un monsieur qui s'appelle Andreas Malm. C'était qui à peu près? Ou c'est qui?
C'est, oui, il est pas si vieux que ça. Hein.
D'accord.
C'est un chercheur de l'université de Lund, en Suède.
En Suède.
Il a vraiment une culture marxiste. Hein, voilà, et donc c'est quelqu'un qui m'a... Ouais, il écrit bien, cet homme.
Alors effectivement, vous allez en juger par vous-même, par un texte qui est d'une densité et d'une intelligence que j'ai trouvé passablement fulgurante. Et incidemment, pas trop marxiste, donc ça me va très bien. Alors, ça démarre. Les combustibles fossiles sont, par définition, un condensé de rapports sociaux inégalitaires. Puisque aucun humain ne s'est jamais lancé dans leur extraction systématique pour satisfaire des besoins vitaux. Condition insuffisante, mais nécessaire et significative de l'économie fossile, le travail salarié ou forcé
contrairement à la maîtrise du feu, n'a pas existé partout et de tout temps. Même l'Empire britannique ne pouvait pas le garantir. Pourtant, ce n'est qu'une des nombreuses inégalités qui ont constitué l'économie fossile. Élaborée dans un étroit foyer, la vapeur était conçue explicitement comme une arme pour accroître le pouvoir sur les périphéries, faire venir les produits de tous les continents, expédier les biens manufacturés en retour et garantir, tout du long, la supériorité militaire. Dans une forme de métabolisme impérialiste fossile qui a sous-tendu toute l'évolution de l'Empire à partir de 1825. L'histoire de la façon dont les riches hommes blancs de Grande-Bretagne, puis de ses empires rivaux, ont pointé la vapeur comme une arme contre la quasi-totalité du genre humain, du Niger au Yangtze-Kiang, du Levant à l'Amérique latine, a encore à peine été effleurée, même en Inde. Alors là, moi je dois avouer que quand j'ai lu ce texte, j'en suis resté baba, parce que cette phrase, pointer la vapeur comme une arme, ça c'est merveilleux. Alors, c'est, et à nouveau, comme tous les petits Français, dans mes cours d'histoire, ah mais l'invention de la machine à vapeur, quelle merveille,
c'est ça. C'est pour libérer l'humain du fardeau.
Ça a libéré la productivité, ça nous a nourri. Oui, mais en même temps, désolé, ça a bien été une arme. Aurais-tu quelque chose que tu souhaiterais ajouter à ce sujet ?
C'est-à-dire, ça a été une arme pour aller dominer d'autres peuples, mais même dans l'Angleterre, enfin, ou dans la France de la première révolution industrielle, hein, ça permettait aussi de mettre de faire travailler des gens sous une cadence infernale dans l'industrie du textile, dans toutes les usines qui fabriquaient tout un tas de biens manufacturés. Donc c'est quand même un instrument de domination. Très important. Ça a peut-être libéré la capacité de mouvement par le train à vapeur ou par ensuite la voiture avec le pétrole et le moteur à combustion interne. Au début, à chaque fois, d'une toute petite minorité, et puis ça s'est massifié. Mais ça se fait toujours au prix de sacrifices.
Et rappelons que les chemins de fer sont eux aussi, alors là, directement une arme. On sait très bien que ce soit la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale ou aujourd'hui l'agression en Ukraine ou tout un tas d'autres guerres, la plupart des guerres, des grandes guerres modernes, se déroulent le long, ou en tout cas pour le contrôle, des voies de chemin de fer. Pour une raison très simple, l'arme principale depuis longtemps, c'est le tank. Le tank, c'est très 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 lourd. Un tank, ça peut difficilement rouler plus de 50 ou 60 km tout seul sans que le moteur prenne feu ou se casse. Et donc, en fait, les tanks, pour les déplacer ailleurs que sur le champ de bataille, mais pour aller d'un champ de bataille à un autre champ de bataille, ben, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est les mettre, comme ils sont extrêmement lourds, on ne peut pas les mettre sur des routes parce qu'ils bousillent les routes, donc il y a un premier char qui passe, le cinquième char terminé, il ne passera plus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on met les tanks sur des wagons de chemin de fer. Et donc les lignes de chemin de fer, à nouveau, que ce soit dans la Première ou la Seconde Guerre mondiale, les lignes de chemin de fer ont pris une importance stratégique et tactique absolument colossale. Alors on continue avec...
Je voulais juste dire quelque chose par rapport justement au chemin de fer. Moi, ce qui m'a frappé, je parle par exemple au Moyen-Orient, il existait avant 48, un train qui allait de Port Saïd jusqu'à Beyrouth. Ce train a été supprimé, évidemment, comme on peut imaginer. C'est Ronald Craig qui m'a parlé de ce voyage, parce qu'il a fait ce voyage entre Port Saïd et Beyrouth. Et il y a un film de Mihail Boganim qui part justement de cette ligne de chemin de fer qui rejoignait donc Tel Aviv à Beyrouth, puisque ça passait par là, et qui a été supprimé. Donc, ce n'est pas seulement pour transporter les tanks, c'est aussi pour isoler des
populations.
C'est aussi efficace que le mur.
Absolument. Alors, Victor, je voudrais te poser une petite devinette dont tu as la réponse, puisque tu la donnes dans ton livre. Quel est le double problème auquel font face les gouvernants des États modernes? Alors là, je vois que Christiane me regarde d'un œil perplexe.
Non, pas du tout perplexe. J'ai mes interprétations.
Alors.
Mais allons-y, Victor, c'est toi
Ah oui, tu vas voir, la réponse est excellente. La réponse est excellente.
Donc là, tu fais allusion à la création d'un concept qui est celui de la nation.
Non.
Qui émerge. Alors, encore une, c'est toujours pareil.
Attends, on s'arrête tout de suite. Comment ça ? Tu es en train de dire que la nation, c'est un concept et non pas une vraie réalité, que la terre et le sang ne constituent pas la nation. Ouais. Ah ben zut alors.
Alors, bon, c'est toujours compliqué de dire la nation, ça émerge à telle date précisément. Mais en tout cas, ce qui se passe avec la révolution industrielle, c'est qu'il y a de la contestation quand même populaire. Il y a bien tout un tas, toute la classe laborieuse justement qui se retrouve à travailler en usine avec des horaires assez horribles, commence à avoir des revendications, à bien comprendre qu'une grosse partie de leur travail se termine dans les poches des détenteurs de capitaux. Et donc il y a ce problème de la cohésion en fait de la population sur un territoire donné.
C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est qu'on voudrait bien que les pauvres cessent de haïr les riches.
Voilà, et puis le fait que... Donc il y a le problème des classes sociales et du fait que le communisme, le marxisme répond à cette protestation, à cette colère.
L'anarchisme aussi.
L'anarchisme aussi, mais... À l'époque, ça se tape pas mal sur la gueule. Mmh. Et il y a aussi le fait que sur ces territoires-là, on a quand même affaire à des peuples qui, en fait, étaient dans des régions peut-être pas isolées à 100%, mais chacun avait son patois, chacun avait aussi des monnaies locales. Enfin, je veux dire,
Bretagne n'était pas la Provence.
Des cultures très fortes. Alors c'est vrai en France, mais c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie. Enfin voilà, dans tous les pays du monde. Mais là, je parle de l'Europe parce que c'est elle qui s'industrialise en premier. Et finalement, tout ça s'est exacerbé par le début de l'industrie. Et donc, les gouvernants se font face à vraiment ce souci, quoi.
Alors, quel est donc ce double problème, très précisément ?
L'autonomie.
Tu le dis de manière très, très, très juste.
Donc, premièrement, ils doivent amener le peuple, en fait, à s'identifier en tant que... qu'est-ce que je dis ? En tant que nation pour consolider... Oh là, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je dis ? Ils doivent amener le peuple à s'identifier en tant que...
Nation.
Et ensuite, ils doivent aussi lier cette nouvelle identité à l'État, enfin à l'appareil étatique.
C'est-à-dire que, historiquement, prenons l'exemple de la France, pendant longtemps, les rois de France, pas fous, au lieu de parler de cette idée bizarroïde de nation à des gens qui souvent parlaient même pas la même langue, eh bien, ils veulent tout simplement que les gens s'identifient à la famille royale.
Bon. Aussi. Ouais.
Mais arrive un moment où il n'y a plus de famille royale. Et là, les classes dominantes se disent, mais effectivement, pour maintenir la cohésion sociale, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, on a quelque chose auquel tout le monde, en théorie, appartient, qui est la nation. Et je trouve très bien que toi, tu aies su faire la différence entre, que tu aies su identifier ces deux étapes différentes, qui sont que, il faut que les gens s'identifient à la nation. Et une fois qu'ils sont identifiés à la nation, alors il devient infiniment plus simple de les convaincre de la nécessité de l'appareil d'État. Mmh. Parce que, avant, l'appareil d'État était tellement identifié à ce que possédaient et contrôlaient les familles royales, qu'il en était teinté.
Bien sûr.
Et que donc, pour purifier l'État de son image de simple instrument d'extraction financière aux mains des familles royales, eh bien, on a fait ce tour de passe-passe de dire « Mais non !»
C'est pour vous, ça va revenir, ça va ruisseler.
Exactement, ça va ruisseler à nouveau dans vos poches. Oui. L'État n'est simplement que l'émanation de votre volonté et de votre représentation. Christiane, nous t'écoutons.
Je voulais demander à Victor si justement la France était assez exemplaire dans ce sens, puisque c'est quand même un État qui est extrêmement centralisé par rapport même à d'autres pays européens qui nous entourent, où il y a quand même, disons, un semblant d'autonomie dans certaines régions, alors qu'en France, c'est Paris, et puis ça irradie partout, quoi.
Alors
d'où ça vient ?
Ouais, ce que j'explique dans le livre, c'est que il y a eu pendant quand même tout le 16e, 17e siècle, 18e siècle, un phénomène de consolidation des États, hein, puisqu'il y avait sur le territoire européen, on pouvait compter 100 à 200 États qui, après un processus en fait guerrier, hein, de compétition guerrière, ont abouti qu'à une cinquantaine d'États à l'heure actuelle sur le territoire, voilà, même en comptant les tout petits États. Et les deux qui ont émergé le plus, avec l'appareil étatique le plus robuste, c'est la France et l'Angleterre. C'est clair que les deux gagnants de ce processus-là, c'est la France et l'Angleterre. La France, tu as raison de le dire, avec vraiment un processus très centralisé. Je suis pas un expert, moi, de... Enfin, voilà ce que je peux en dire. Mais alors, est-ce que la France... Comment expliquer à quel point la France est centralisée comme alors, ça
Non, ça, je pense que c'est relativement simple. Il y a d'abord un phénomène géographique très, très simple. En France, il y a quatre grands fleuves.
Ouais.
La Loire, la Saône, le Rhône...
La Garonne
et la Seine.
Bon, et la Seine.
Quatre grands fleuves. Oui, tu peux ajouter le Rhin, c'est vrai. Justement, le Rhin, c'est compliqué. On va dire. Le problème, c'est que sur ces quatre, alors bon, si on met le Rhin, il n'y en a que deux qui sont réellement navigables. Un peu le Rhin, mais le Rhin, il n'est pas vraiment complètement sur le territoire français, enfin considéré comme français. Et c'est donc la Seine qui est le seul fleuve navigable en gros toute l'année. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'artère commerciale principale de la France, c'est la Seine. Paris, là-dedans, c'est quoi? Paris, c'est un lieu extraordinairement privilégié du point de vue géographique parce que, un tout petit peu à l'est de Paris, il y a la Marne. Et la Marne, relativement navigable elle aussi, elle vous emmène en gros vers l'Allemagne. Et puis, à l'ouest de Paris, pareil, pas très loin, vous savez, l'Oise, elle aussi relativement bien navigable et qui vous emmène en gros vers la Belgique. En d'autres termes, Paris est une plaque tournante commerciale dès le départ. Or, en plus d'être une plaque tournante commerciale, Paris est tout en bas, c'est l'un des points les plus bas, de cette immense plaine fertile qu'on appelle dans certains coins la Brie, dans certains points la Beauce, mais du point de vue de la géographie physique, c'est cette énorme plaine qui va jusque dans le nord de la France et qui descend jusqu'à la vallée de la Loire, et qui est l'une des régions, du point de vue de l'agriculture, les plus fertiles du monde. Donc, Paris, par définition, était l'endroit où allaient se concentrer les richesses d'abord de cette énorme plaine, et ensuite de tout le pays qui était irrigué par ce fleuve, la Seine. Et de quoi s'aperçoit-on? C'est qu'en 987, quand s'installe la dynastie qui va devenir la dynastie dominante pendant un millénaire, ce sont les Capétiens, ce sont précisément les gars qui contrôlent déjà cette plaine extraordinairement fertile et ce fleuve essentiel dans le commerce. Et donc, qu'est-ce que fait cette famille royale française? Tout simplement, c'est pour ça qu'elle centralise comme une folle, parce qu'elle sait très très bien qu'elle contrôle, je ne vais pas dire naturellement, mais que historiquement elle contrôle ce territoire, que les autres territoires ne sont pas du tout contrôlés, et que donc à chaque fois qu'elle va réussir à grappiller un truc, elle impose un contrôle de fer, parce qu'elle sait que, en un sens, elle n'y a pas droit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon sens, la France est devenue un pays extrêmement centralisé. C'est parce que c'est la même dynastie qui a réussi à rester au pouvoir pendant aussi longtemps. Dans beaucoup d'autres pays, les dynasties, il y a eu des... Ça a sauté dans un sens ou dans un autre, que ce soit en Autriche, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre. Et donc, les potentats locaux, pour en revenir à ce dont on parlait plus tôt les potentats locaux ont pu plus facilement se défendre contre ces dynasties qui sautaient de temps en temps que contre cette dynastie française qui, avec obstination, pendant quasiment 1000 ans, elle s'est accrochée, et elle a donc créé l'un des États les plus centralisés du monde. Alors, je souhaiterais terminer sur encore l'une de tes pépites. Je ne savais pas, je suis ravi, j'ai appris. Nous savons tous que les États-Unis, c'est le royaume de l'automobile. C'est pas exactement le meilleur choix qu'ils ont fait. Justement, là, ma phrase, c'est pas le meilleur choix qu'ils ont fait. Victor, les Américains, pardon, les États-Unis. Non, parce que je vois là.
Ça fronce là.
Ça s'enfonce là-bas. Là.
C'est de la provoque.
les États-Unis, ils ont vraiment choisi l'automobile. On les a pas un petit peu beaucoup. Pousser. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement qu'on les a poussés pour... Parce que, mine de rien, le train aux États-Unis, c'était super facile à installer. Parce que, hormis les rocheuses, en gros, c'est plat. Ça aurait été extrêmement simple et extrêmement productif et pratique d'avoir un réseau ferroviaire aussi dense que, par exemple, le réseau ferroviaire français. Alors, pourrais-tu nous rappeler pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça ? Parce que là, quand même, ce que tu dis, c'est vraiment savoureux.
Là, c'est assez, ouais, c'est un passage assez exceptionnel de l'histoire de l'énergie, je pense. On a donc la première partie de la révolution industrielle, c'est le charbon et la machine à vapeur. Et puis après, c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution industrielle. Le pétrole est le moteur à combustion interne. Quand on raffine du pétrole, on obtient de l'essence ou du diesel. Mais en tout cas, c'est de l'énergie beaucoup, beaucoup plus dense. Et puis, comme c'est liquide, c'est encore plus pratique que le charbon. Il y avait quand même un problème, c'est que les premières voitures, c'est 1890, ça démarre au début du 20e. Mais il y avait un problème pour les constructeurs de voitures. Ils avaient envie que la voiture se démocratise, que tout le monde leur achetait une voiture, etc. Parce qu'en plus, elle devenait de moins en moins chère avec les gains de productivité. Mais il y avait des super tramways électriques dans toutes les villes, qui fonctionnaient très bien. Il y avait aussi des voitures électriques, d'ailleurs. Maintenant, on revient aux voitures électriques. Parce que
mais
on
la a première fait... voiture électrique, effectivement, c'est 1905.
On a fait un siècle de voitures thermiques, mais on est en train de revenir aux voitures
électriques. L'une des premières voitures a été électrique, tout à fait.
Il y avait notamment dans les villes, je pense que, vraiment, même à Paris, on trouve des photos en noir et blanc du début du 20e, où il y a des tramways électriques devant l'Opéra, Garnier, etc. Et donc, en tout cas, aux États-Unis, il y a eu une coalition des entreprises du pétrole, des entreprises de fabrication de pneus.
Des entreprises automobiles.
Des entreprises automobiles. Et le troisième, j'ai oublié, troisième type. En tout cas, qui ont fait cette coalition industrielle pour dire, on va racheter, bien sûr, un peu en secret avec des sociétés écrans, ou voilà, fallait pas que ce soit trop visible, mais on rachète les tramways électriques dans les villes, on arrête d'investir, donc le matériel roulant va péricliter,
se dégrader.
Même le réseau va se dégrader, on va augmenter le prix des tarifs, donc c'est un petit peu comme ce qui se passe en ce moment en Ile-de-France.
Cet homme est surprenant, n'est-ce pas ?
On a un sous-investissement chronique sur le réseau ferré en Ile-de-France, mais partout d'ailleurs, partout en France, et puis, alors que les prix continuent d'augmenter. Donc ça fait que les gens grognent.
Hôpitaux, cliniques privées ?
Oui, aussi. Donc ça fait que les gens gueulent effectivement et disent je comprends pas, je paye plus cher et le service rendu est moins bon. Et donc en fait, c'est un sabotage pur et dur. Et donc au bout d'un moment, alors en plus avec a priori l'aide des mafias locales aussi pour abîmer donc il y a eu de la corruption, les élites municipales, les dirigeants municipaux étaient sûrement dans le coup. Donc voilà, donc on enterre un système énergétique qui fonctionne, donc tramway électrique.
On n'enterre pas, on le sabote.
On le sabote, on le détruit sciemment pour consolider un système alternatif qui était en fait moins efficace, plus polluant, plus cher, qui est le système de la voiture individuelle qui fonctionne à l'essence.
Et tout ça pour le bénéfice d'entreprises absolument colossales, puisque par exemple, quand on parle des compagnies du pétrole américaines, eh bien, c'est précisément l'époque où, ça y est, Rockefeller a assis son incroyable domination. Il faudra une action en justice pour diviser
la standard oil.
Qui va évidemment de toute façon revenir à quelques monopoles. Quand on parle de l'automobile, eh bien on parle de quoi? On parlait à l'époque donc de trois grandes compagnies, c'est tout pour les États-Unis. Donc de General Motors, Ford et Chrysler, le pneu Firestone. Donc voilà, on parle vraiment d'une poignée de compagnies et qui ont sciemment détruit un service public.
Alors, en plus, on pourrait dire, mais quand même, l'histoire est bien faite, parce que la justice les a rattrapés, donc il y a eu un procès, etc., qui s'est soldé par 100 dollars symboliques de... Voilà. Donc là aussi, on peut s'imaginer que la justice est toujours... on sait que la justice est... Et pas forcément, s'applique pas de la même façon à tout le monde, voilà. Et donc c'est un scandale, vraiment.
Absolument, absolument. Alors on savait bien, moi personnellement, je savais bien que aux États-Unis, les élites avaient délibérément choisi de favoriser l'automobile et le pétrole aux dépens des voies ferroviaire, mais que ça a été à ce degré de corruption. Je te remercie profondément, Victor, de m'avoir enseigné ceci. Et nous allons bientôt passer aux infos du Proton grâce à Lulu, mais j'imagine que Christiane va également nous faire bénéficier d'une petite pause musicale.
On redit peut-être
le titre
et le bouquin du bouquin.
Alors, le titre du livre, excellent, dont je recommande l'achat immédiat, précipitez-vous. Victor Court, L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines. Ça a été publié chez Éco-Société. Tout à fait franchement, nous n'en sommes qu'à la page 288. Et je note que la dernière page, c'est la page 503.
Mais là, tu rajoutes la bibliographie, les annexes, etc.
Je triche. Alors, méfiez-vous.
Donc,
parce que
il nous reste à faire tout le XXe siècle. Et puis, le dernier chapitre de prospective.
Non, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce livre est absolument passionnant à lire et que ça se lit presque comme... Il y a des moments, c'est un thriller.
Oui, tout à fait.
Carrément.
Ça si facilement, c'est agréable.
Merci.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Dans la rue que ça se passe, mais ça tout le monde le savait, c'est Joli Môme.
Les infos du Proton.
La noix d'honneur du canard enchaîné, décrochée par le gros bras Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, mais pas de ses nerfs. Non pour les trois bras d'honneur qu'il a fait en plein hémicycle 7 mars à l'adresse du député LR Olivier Marilex qui rappelait sa mise en examen pour sa brillante défense pro-domo. Ces bras d'honneur, accompagnés de paroles, tendaient non pas à viser Marieux en personne, mais le bras d'honneur que ce dernier faisait à la présomption d'innocence. En clair, c'est le bras de Marlex, le coupable. mais si vous l'avez pris pour vous, je regrette ce geste, a déclaré Dupont. Merci pour cette explication de geste.
Et rappelons à propos de l'hémicycle le moment où Olivier Dussopt.
Sans doute, ton micro n'est pas ouvert.
Moi, je vois rouge, mais c'est pas grave. Oui, rappelons qu'il y a eu récemment là, Olivier Dussopt qui, tout rouge, mais rouge, réellement rouge, hurlait « Non, je n'ai pas craqué! Non, je n'ai pas craqué! Non, je n'ai pas craqué !» On voit les veines de son cou complètement gonflées. Enfin, la parade des clowns est tout à fait instructive. C'est pas fini. Lulu, c'est à nouveau à toi.
On en apprend tous les jours de plus belle sur l'évolution de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens. Après le pogrom mené par les colons à Naplouse, voilà que l'écrivain David Grossman proteste dans Libération contre la mainmise du gouvernement d'extrême droite sur la Bibliothèque nationale, foyer des racines de l'identité d'Israël. Comme si Netanyahou et ses alliés d'extrême droite pouvaient entacher l'identité d'Israël.
Et si je peux me permettre de rappeler, Christiane, mon micro marche ? Oui, si je peux me permettre de rappeler qu'en ce moment, en Israël, donc Netanyahou veut tout simplement que la Cour suprême israélienne n'ait plus aucun pouvoir et que par conséquent, ce soit la majorité, le gouvernement en place qui puisse décider en gros de tout ce qu'il veut. Et fort heureusement, il y a des manifestations gigantesques puisque dans un pays qui fait moins de 10 millions d'habitants, il y a des manifestations qui ont rassemblé 250 000 personnes. C'est-à-dire qu'à l'échelle française, on parlerait de quoi ? De 5 millions de gens dans les rues. Mais c'est curieux, c'est comme chez nous, là le combat il n'est pas exactement fini malheureusement. Lulu, c'est toujours à toi.
Une nouvelle loi d'honneur accrochée au pilulier du ministre de transition numérique, le procès en appel du médiateur. D'élever au rang d'officier de la Légion d'honneur, Madeleine Dubois, ancienne Liubienne en chef de Servier. Commentaire du même barreau dans Lyon Mag. C'était une coïncidence d'événements qui était peut-être un peu malheureuse. Et la médaille de l'euphémisme, c'est peut-être un peu pour lui. Une nouvelle noix d'honneur encore accrochée à la ceinture de l'animateur de télé Jean-Marc Morandini qui a oublié d'évoquer sa condamnation le 5 décembre dernier à un an de prison avec sursis pour corruption de mineurs, mais n'a pas omis de dégainer dans les meilleurs délais ce tweet. Le parquet de Paris ouvre une enquête visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques. C'est un métier, l'élégance. Le mur du son du Canard Enchaîné franchit à la vitesse d'un missile hypersonique par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, en marge du G20, qui se tenait à New Delhi. Le proche de Poutine a décroché l'hilarité de son auditoire indien en commençant sa conférence par ces mots. Vous savez, la guerre que nous tentons d'arrêter, qui a été lancé contre nous en utilisant des Ukrainiennes pour qu'ils bombardent leur propre ville, évidemment.
Je rappelle là-dessus, je ne rappelle pas. Vas-y. Il est probable qu'on fasse une émission, un de ces quatre, sur un excellent petit livre qui s'appelle « Dans la tête de Poutine » et qui est un très bon livre sur... l'idéologie extrêmement conservatrice de Poutine, l'idéologie pan-slave, pan-russe, dont on parlait d'empire. À nouveau, c'est ce fantasme démentiel d'un empire russe et que les pays baltes, l'Ukraine et toutes les petites, les immenses républiques d'Asie centrale.
la Crimée.
Et la Crimée, etc., sont évidemment fondamentalement, éternellement russes et que leur âme russe vibre au sein même de l'orthodoxie. Non, non, aucun retour au XIXe siècle. Non, non, du tout, jamais. Lulu, c'est toujours à toi.
En matière de saloperie, les curés sont un peu comme les chasseurs. Ils ne nous déçoivent jamais. On en a une nouvelle illustration avec la condamnation à 6 ans de prison le 14 février par la cour criminelle du Pas-de-Calais à Saint-Omer en prêtre, d'un prêtre responsable de l'accueil de groupes de jeunes dans un sanctuaire du Calvados. En 2006, à Lisieux, il a violé une adolescente de 13 ans qui venait de faire une tentative de suicide. La jeune femme avait porté plainte quelques années plus tard en apprenant que le religieux était toujours aumônier dans ses établissements scolaires. L'ancien prêtre a été incarcéré quand même. Il n'est jamais trop tard. Le directeur de BP devrait toucher une prime de 13 millions d'euros. Fairplay, il a déclaré qu'il renonçait à la prime énergique du président Macron. Écosse, une femme transgenre condamnée à 8 ans de prison pour des viols commis avant sa transition. 4 années par couille. Le pape va faire payer un loyer à ses cardinaux au Vatican. Jésus et les deux larrons devront aussi mettre la main à la poche et payer un loyer pour la location de la croix. Soucieuse de l'avenir posthume de ses administrés, la vice-présidente de l'Assemblée nationale est députée de l'Isère, Élodie Jacquier-Laforge, a déposé une proposition de loi afin de développer le compostage humain, rapporte France Info. Il s'agit d'une alternative à l'inhumation et à la crémation. Seul problème, font remarquer les scientifiques, le corps humain contient désormais de telles quantités de polluants que cette pratique pourrait se révéler catastrophique pour les terres cultivées. Au Brésil, l'addiction aux armes tue parfois dans des circonstances pour le moins étonnantes. Accompagnant sa mère, qui devait subir une IRM, un homme a passé outre l'interdiction de se séparer de son arme à feu en raison du champ magnétique provoqué par l'appareil. Son arme s'est déclenchée toute seule, blessant mortellement. Les assassins qui ne veulent pas laisser d'empreintes digitales sur leurs armes savent désormais ce qu'il leur reste à faire, se balader avec un appareil d'IRM.
Ah, incidemment, je ne me souviens plus très bien si ça a été repris dans les informations françaises, mais quand on suit les informations américaines, cette année, il n'y avait plus...
États-Uniennes.
Bon, Victor...
C'est bon, merci, Victor. Non, mais c'est dans le dictionnaire, le petit Robert, depuis 1985.
C'est devenu un mot tout à fait
ouais,
logique.
Parce que pensez aux Américains qui sont dans le Sud.
Exactement. Hein, et qui voilà. Et d'ailleurs, souvenons-nous que de toute façon, Américain vient de M. Amerigo Vespucci.
Ah oui.
Bon, c'est pas grave. Non, je voulais juste dire que donc, chez nos bons amis états-uniens, il y a eu cette année plusieurs cas de petits-enfants, 5 ans, 6 ans, voire 2 ans, qui, il y a le gros objet noir là, c'est curieux, il y a un truc qui est, boum, j'ai tué maman, j'ai tué papa. Il y a eu donc au moins 3 morts abattus par des enfants avec les armes de leurs parents. Bon. Allez, Lulu, encore un ?
Encore un, oui.
Allez, encore un.
Les salices François de Closet, âgé de 89 ans, a poussé un cri de colère sur France Info. Il déclare « Les jeunes manifestent pour leur retraite dans 50 ans, mais c'est à pleurer. Le jour où le droit de manifester sera réservé aux vieux, François de Closet aura un coup de jeune. »
Et maintenant, c'est le dernier morceau, le dernier disque. Eh bien, je vous laisse le découvrir. Et c'est évidemment un disque de Fraziac, puisque Fraziac a fait un concert vendredi prochain à 20h30 c'est à Ivry. Et c'est donc au Forum Léo Ferré, pardon.
Ces méchants sont dans tes sourires, tes bras qui m'empêchent de mourir, cette route que je ne savais pas. Un beau bordel organisé, qui se fout pas mal des défilés, c'est la solitude à mes pas. Du noir aux ombres de ma folie, mon anarchie. C'est de l'amour sans les barrières, la fraternité sans frontières, les nuits, les jours que je dévore. Une règle de vocabulaire aux conjugaisons libertaires pour mieux écrire merde à la mort. Le feu dans toutes mes envies, mon anarchie. Ne va pas poser des bombes, taguer des vitrines ou des tombes. Aux flics, elle préfère les clous. Mais au point levé des sans-voix, elle joint le sien pour le combat de l'utopie contre les coups. Parce que tout pouvoir est maudit, mon anarchie. Les drapeaux menteurs qui nous bernent, elle connaît trop les balivernes, rouge sillon de la patrie. Aux églises de sang et d'or, elle préfère le maigre décor des bars des copains de la nuit. Elle vous laisse à vos litanies, mon anarchie. Elle s'endort, la liberté d'y croire encore a comme amour en étendard. Elle a partout des camarades, de mots d'espoir et d'engueulades, et des couplets pleins les guitares. Le chant de mon cœur sans parti, mon anarchie. Mais j'aurais beau te l'expliquer, te parler de paix, de respect, le mot fait peur dès qu'il est dit. Sans haine, sans violence et sans armes, ni Dieu ni maître dans ses larmes, rien d'autre qu'un hymne à la vie. Comme les trois mots sur tes mairies, mon anarchie.
Il faut dire au revoir quand même. Et le rendez-vous de la prochaine. Secondes.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans Dieu, sans publicité, on espère sans conneries.
Et... Si, quand même, parce que j'avais laissé mon micro ouvert.
Et c'était le Proton sur Rebif, où nous avons parlé de l'excellent livre de Victor Court, L'emballement du monde, énergie et domination dans l'histoire des sociétés humaines, publié par les éditions Éco-Société canadienne.
On se retrouvera, comme d'habitude, le troisième lundi de chaque mois. Et également, si vous écoutez Les Muses s'amusent, ce sera le premier lundi de chaque mois. Et bien entendu, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Libertaire. Et vous êtes les bienvenus à diffuser le dit podcast. Christiane, voudrais-tu ajouter quoi que ce soit ?
Ben, écoutez, très très bonne semaine, très très bon mois, et je suis ravie que Victor soit venu encore une fois sur Radio Libertaire, parce que je pense que son livre, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire, à débattre, à discuter, et j'espère qu'on fera un jour une rencontre à Publico.
Ah, oui, très bonne idée. Et je rappelle donc, nous en étions à la page 288.
Voilà, il y a encore des choses.
Et nous remercions également Lulu. Allez, bonne nuit à tout le monde.
Salut.
Bonne soirée.